le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui, et demain, les écouter, alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. J'ai continué à reculons et à mesure que je n'avançais pas, se dessinait dans mon dos une drôle de rumeur de village. J'étais arrivée à Helm. Tu me crois? Tu ne me crois pas? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Le village de Helm est un petit village de Pologne. On raconte que c'est là que vivent tous les fous. Que le créateur, dans sa grande sagesse, aurait décidé de les tenir tous rassemblés pour pouvoir veiller sur eux en un seul regard. Les habitants de Helm, eux, te diront que c'est faux. Ici, on n'est pas fous. Mais c'est vrai qu'il s'y passe toujours des choses folles. Suis-moi, allez, on y va. Tu peux pas te tromper. Au cœur du village, tu trouveras 2 horloges qui n'indiquent pas du tout la même heure. Et si tu demandes aux habitants « Mais pourquoi vous avez 2 horloges qui n'indiquent pas la même heure ?» Ils te répondront « Bah, réfléchis. Si les 2 horloges indiquaient la même heure, il y en a une des 2 qui ne servirait à rien, non ?» Si tu vois passer un homme à cheval qui porte son bagage au-dessus de sa tête, ne te pose pas trop de questions et dis-toi que tu es bien arrivé à Helm. C'est simplement que cet homme respecte infiniment son cheval et l'épargne ainsi du poids de son bagage. Bienvenue à Helm. Pour les habitants de Helm, est-ce que tu sais de la lune ou du soleil? Lequel est le plus important des 2? Non. Bah, c'est la lune, bien sûr. Parce que la lune... elle est claire quand on n'y voit rien, tandis que le soleil, lui, est clair quand on y voit déjà très bien, non? Bienvenue à Helm. Pour les habitants de Helm, est-ce que tu sais ce que ça veut dire lorsque le chien remue sa queue? Bah, réfléchis, ça veut dire tout simplement que le chien est plus fort que sa queue. Si c'était la queue la plus forte, bah, elle remuerait le chien. Bienvenue à Helm. Enfin, si tu vois des hommes et des femmes sortir de chez eux avec tous à la main un papier et que leur demandant ce que c'est, ils te répondent « Bah, c'est un papier que je me suis signé pour me donner la permission de sortir. » Tu es peut-être arrivé à Helm. Ou bien peut-être est-ce ce monde qui est devenu complètement absurde. Bienvenue à Helm. Ici, on n'a pas beaucoup d'argent du tout, mais on a plein d'idées pour le dire. Ainsi, à Helm, on dit « C'est toujours le chauve qui trouve le peigne. » Ou encore, si les riches pouvaient se payer des pauvres pour mourir à leur place, ben alors les pauvres ne manqueraient plus d'argent. Ou encore, quand un pauvre mange un poulet, il y en a au moins un des 2 qui est malade. Ou enfin, Ce n'est pas une honte d'être pauvre, mais enfin, ce n'est pas non plus un très grand honneur. Bienvenue à Helm. Il neige. Sur la ville de Helm, depuis cette nuit, il neige et au petit matin. Une fine pellicule scintillante recouvre toute la ville. Dans la ville de Helm, il y a un grand conseil de grands sages qui est composé de 7 hommes, les plus vieux, les plus barbus, donc les plus sages de Helm. Et les grands sages, à chaque fois qu'il s'agit de prendre une décision, se réunissent, réfléchissent et se concertent pendant 7 jours et 7 nuits. En ce moment, c'est la période de Hanouka. C'est le moment où on célèbre le retour de la lumière et où on s'offre des petits cadeaux. On allume des tas de bougies aux fenêtres des maisons et les caisses de la ville sont vides. Alors le grand conseil des grands sages se réunit pour trouver une solution. Comment faire pour faire en sorte que les caisses de la ville soient à nouveau pleines en cette période de Hanouka? Et les pensées tournent dans les têtes. Une mouche tourne au plafond. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? À ce moment-là, Yosel Schmissel, un des grands sages, appelle les autres. Arrêtez-vous, venez voir. Et il colle sa figure à la fenêtre, écrasant son nez contre le carreau, comme un gosse. Regardez donc ce qui est en train de tomber sur la ville de Helm.
C'est de la neige, oui, c'est de la neige.
Mais moi, quand je la regarde bien, je trouve qu'elle brille comme des diamants, non?
Oh oui, tu as raison, on dirait de l'argent aussi. Oui, des perles précieuses, oh!
Mais c'est un trésor qui est en train de tomber sur la ville de Helm. Si on trouvait le moyen de ramasser cette neige et de la mettre dans les caisses de la ville, alors les caisses seraient pleines, non?
Oui, très bonne idée, votée,
adoptée. Oui, mais les habitants de Helm, quand il neige, vous savez bien ce qu'ils font. Ils n'aiment rien tant que sortir de chez eux et puis aller piétiner la neige. Il faut trouver une solution pour qu'aujourd'hui les habitants ne sortent pas de chez eux. Comment faire? Les pensées tournent dans les têtes. Les langues tournent dans les bouches. La mouche tourne et tourne encore et se pose. Comment faire? Je sais, dit Hickelvac la claquette, je sais ce qu'on peut faire. Le bedeau. Le bedeau, chaque matin, fait le tour des maisons et tape sur les volets pour appeler les gens à la prière. Il suffit qu'il leur rappelle qu'aujourd'hui, il ne faut pas sortir de chez eux tant que le grand conseil n'aura pas ramassé la neige qui est en train de tomber sur elle, mais la chose sera réglée. Mais oui, votez, adoptez.
Oui, mais les pieds du bedeau, en faisant le tour de la ville de Helm,
ils vont écraser toute la neige, c'est vrai. Mais comment faire pour que les pieds du bedeau n'écrasent pas la neige? Et le grand conseil réfléchit encore. Les pensées tournent dans les têtes, les langues tournent dans les bouches. La mouche s'est posée, elle a l'air de s'endormir dans son coin de plafond. Comment faire? Comment faire pour que les pieds du bedeau n'écrasent pas la neige? Et c'est Mendel Knackelfilzor qui trouve l'idée. Je sais. Il suffit de nommer spécialement désigné 4 porteurs et d'amener une table et que chacun des porteurs de table porte chacun un des pieds de la table. On y percherait le bedeau et ainsi les pieds du bedeau ne toucheraient pas la neige qui est en train de tomber sur elle. Mais oui, votez, adoptez. On est allé chercher le bedeau, on lui a tout expliqué, il a accepté. On a nommé spécialement désigné pour l'occasion 4 porteurs de pieds de table qui chacun a soulevé son pied de la table avec le bedeau perché sur la table en appui sur son bâton fier tel Moïse sur le Sinaï et tous sont sortis. On fait le tour de la ville et le bedeau de volée en volée a frappé quelques coups, appelle à la prière et que ce matin, sur ordre du grand conseil des 7 grands sages, personne ne sorte de chez lui tant que le grand conseil n'aura pas ramassé la neige, le trésor qui cette nuit est tombé sur Helm. Dans la matinée, le soleil, qui sert à rien, s'est levé et a offert sa lumière sur un paysage de désastre. Dans toute la ville, la neige était toute piétinée
écrabouillé, et le soleil achevé de fondre ce qui était devenu flac, bou et bleu. Alors le grand conseil de sept grands sages s'est rassemblé pour comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi, alors qu'on a pris toutes les précautions d'usage, le trésor qui est tombé sur Helm a ainsi été piétiné. Et les pensées tournent dans les têtes, les langues tournent dans les bouches, la mouche, elle a disparu. Comment le trésor a-t-il été piétiné? Et c'est le grand Bayamiche qui a trouvé la solution. Les pieds du bedeau, bien sûr, mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé? Alors, puisqu'il n'avait plus rien d'autre à faire, le grand conseil a réfléchi, comment faire pour que les pieds des porteurs de table ne touchent pas la neige la prochaine fois que la neige tombera sur la ville de Helm? Ils ont réfléchi 7 jours et 7 nuits, ils avaient le temps et ils ont trouvé la solution. C'est simple, la prochaine fois, il suffira de désigner 4 porteurs, de porteurs qui chacun portera sur ses épaules un des porteurs de pieds de table. Ainsi, les pieds des porteurs ne toucheront pas la neige. Ben oui, tu l'auras compris, à Helm. À chaque problème, on trouve toujours une solution. D'ailleurs, le jour où le Shams, le bedeau, s'est trouvé trop vieux pour continuer sa traditionnelle tournée d'appel à la prière, les habitants ont décidé de décrocher chaque matin à l'aube leurs volets et venir les présenter au chevet du bedeau pour que celui-ci continue, toc toc toc, de frapper les coups réglementaires pour l'appel à la prière et ainsi respecter la tradition. À Helm, à chaque problème, il y a toujours sa solution.
J'ai tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit.
J'ai attrapé ce conte de Helm sur le bout de la langue de la conteuse Muriel Bloch. Et puis je l'ai laissé bien mijoter pour vous en faire un régal de partage. Ma bouche vous l'a soufflé et maintenant je le remets sous la pierre pour le suivant.
Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
Thank you.
tous les peuples sont friands d'histoires idiotes, de facéties. Leur fonction au sein d'une société est d'interroger les actions entre les êtres et d'en rire. La facétie, c'est le conte culturel par excellence. Ces petits récits drôles posent les codes de l'humour, donc les règles, les tabous qui organisent un groupe social. Ainsi, par l'humour, se dessinent et s'actualisent les signes d'appartenance à une communauté. Certaines de ces histoires se déclinent en cycles entiers portés par un même personnage. On connaît ainsi Nasreddin Hoxha, dans le bassin méditerranéen par exemple. Ou, ancrée dans une ville imaginaire, ainsi la ville de Chelm est une vraie ville de Pologne qui abrite un centre d'études rabbiniques et talmudiques réputé. La Chelm des fous, elle, est une ville à l'envers. Une sorte de ghetto inversé dans lequel il s'agirait de rire contre le pire. Ce rire plus fort que tout et qui désarme. À ce propos, cette anecdote rapportée par le journaliste Christopher Nick. Mon grand-père avait été déporté à Buchenwald. Un jour d'hiver, en colonne vers la carrière, il glissa sur une plaque de verglas et se retrouva par terre. Le SS, qui escortait son groupe, arma son fusil, et mon grand-père eut alors la présence d'esprit d'éclater de rire. Le SS éclata de rire aussi. Mon grand-père se releva, et il survécut à la déportation. Les Juifs ont toujours adoré les histoires brèves et satiriques, dont le héros, les héros, sont de faux sages, des bouffons ou des plaisantins, des schlemil ou des schlimazel, comme on les appelle. Un schlemil, c'est quelqu'un qui tombe sur le dos et s'écorche le nez. Un schlimazel, lui, c'est quelqu'un qui tombe sur le dos et s'écorche le dos et le nez. La tradition orale a toujours véhiculé ces types de récits dont les plus anciens remontent à l'Antiquité. Chez les Juifs polonais, on parlait souvent de Chelmer Narunim, fou de Chelm, rebaptisé ironiquement Chelmer Karunim, les sages de Chelm, coupeur de cheveux en quatre de tradition talmudique. Les habitants de Chelm sont incapables du moindre mal. Ce sont des êtres doux, absurdes, qui, à travers les situations extravagantes qu'ils traversent, viennent poser un miroir tout en tendresse sur nos propres maladresses et fragilités. Un jour, dans la ville de Chelm, deux des grands sages de Chelm se promenaient quand une pluie battante vient les surprendre.
« Tu n'ouvres pas ton parapluie ?» demande le premier.
« Ah, ça non ! Il est plein de trous !»«
Alors pourquoi tu l'as pris ?»«
Je pouvais pas me douter qu'il allait pleuvoir !»
Thank you.
Schmeindrick est né à Chelm. Il s'est marié à Chelm. Il a accueilli ses deux enfants à Chelm.
Je suis né à Chelm. Pas ce Chelm-ci, l'autre Chelm. Le premier Chelm. J'ai grandi à Chelm. Je me suis marié là. Tout ce que je sais, je l'ai appris à Chelm.
Schmeindrick ne connaissait que ça, ce village des fous que tu connais bien maintenant.
Les étrangers appelaient Chelm le village des idiots. Mais notre rabbin disait que nous étions un village de génies, avec notre façon bien à nous de voir les choses.
Mais avec les années, Schmeindrick commence à douter de la sagesse de Chelm. Il a envie de connaître la grande ville. Et ça lui travaille la conscience. Et puis une nuit, c'est décidé. C'est décidé, il va tout quitter pour partir à Varsovie.
Je décidais que vivre à Chelm n'était pas assez bien pour Schmeindrick. Aussi, le lendemain matin, j'ai rassemblé quelques affaires avant que ma femme et mes enfants ne se réveillent. Je leur souhaite santé et bonheur où qu'ils soient aujourd'hui. Et je suis parti pour Varsovie, voir la grande ville.
Il prend un baluchon. Il fourre trois fois rien dedans pour la route. Il enfile ses godillots et il se met en chemin. Il marche d'un bon pas. Et à mesure qu'il avance, il voit le jour dessiner pour lui des paysages de plus en plus neufs, inconnus, excitants. Aux alentours de midi, Schmeindrick décide de s'offrir une petite pause. Il sort son casse-croûte de son baluchon et déguste, adossé à un arbre, tout ce rien qu'il a emporté avec lui. Et puis, rassasié de rien, il décide de s'offrir une petite sieste. Mais malin comme il sait que le sommeil parfois vient nous embrouiller l'esprit. Alors pour être bien sûr qu'il ne va pas oublier sa destination, il ôte ses deux godillots et il les place. Le soulier gauche, dans le sens d'où il vient, et le soulier droit pointé dans la direction de Varsovie. Malin.
Quand je me suis réveillé, j'ai sauté dans mes bottes, je les ai lacées et je me suis remis en route. Et oh, merveille de merveilles, je suis bientôt parvenu à un village qui ressemblait étrangement à Chelm. Plus je me rapprochais, plus il ressemblait à Chelm. Arbre pour arbre, maison pour maison. Chaque brin d'herbe me semblait familier. N'avez-vous jamais eu cette curieuse impression que tout ce qui arrive s'est déjà produit de la même manière il y a très longtemps? C'était plus qu'étrange. Je parcourais les rues comme dans un rêve. C'était hard à se méprendre. Les gens que je voyais, chacun ressemblait exactement à quelqu'un que je connaissais chez moi à Chelm. Il y avait un rabbin comme le nôtre. Et si on zichia, là on m'échole. Je tournais dans une ruelle identique à la mienne. Il y avait une maison qui ressemblait planche pour planche à la mienne. Même la peinture s'écaillait aux mêmes endroits. Dans la cour, le plumage des poules me paraissait familier. Leur caquettement aussi. Ça devenait effrayant. Et si j'entrais dans la maison et me voyais moi, Schmendrick, assis dans la cuisine, que nous dirions-nous?
Schmendrick entre dans la maison. Et là, il trouve une femme qui ressemble trait pour trait à sa femme, à lui. Deux enfants sont là qui pourraient être les siens. La soupe est chaude. La femme l'invite à s'asseoir. Tout est pareil que chez lui, mais en même temps, tout est plus calme. Bien plus doux. Tellement mieux aussi. Alors Schmendrick prend place et mange. Il mange la soupe que lui sert cette femme. Et cette soupe ressemble à celle que lui sert d'habitude sa femme à lui, mais elle est bien meilleure. Il ne saurait pas dire pourquoi. Tout est tellement semblable. Et puis tout est tout de même vraiment meilleur. Et pourtant, il manque quelque chose dans cette maison-là. Une seule chose. Quelqu'un, en fait. Le Schmendrick de la maison. Et les enfants qui doivent le prendre pour celui-là commencent à l'appeler papa. Schmendrick trouve ça bien étrange, mais il se laisse faire aussi. Et au moment de dormir, le voilà qui accepte aussi l'invitation de cette femme. Oh, bon, pas bien utile d'en dire davantage, hein. C'est comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, ces deux-là. C'est vraiment étonnant. Et puis dans la nuit, tout de même, Schmendrick est saisi d'un doute. Et si le Schmendrick de cette maison-là revenait dans la nuit, que se dirait-il? Et d'ailleurs, peut-être que ce Schmendrick-là est parti dans son chelm à lui, et qu'en ce moment, il dort avec sa femme à lui, peut-être.
Alors, pourquoi ne pas rentrer chez moi? Pourquoi ne pas rentrer? Bonne question. Si ce chelm est exactement comme le chelm d'où je viens, et si le Talmud nous enseigne que le monde est partout pareil, alors tous les villages sont exactement comme celui-ci. Fleur pour fleur. Vache pour vache. Qui sait? Peut-être que le monde entier est simplement un énorme chelm. Je suis un homme pratique. Pourquoi je m'épuiserais à marcher pour me rendre là où pratiquement je suis déjà?
Quelques conseils, des petits conseils lecture pour ceux qui souhaiteraient continuer le voyage dans Chelm. Je recommande la lecture de Tzila et autres contes déraisonnables de Chelm de Muriel Bloch que vous trouverez aux éditions Syros. Et puis aussi les contes des sages du ghetto de Ben Zimet, édité chez Seuil. Pour l'agenda, ben, nous attendrons de pouvoir sortir de nos petits ghettos covidés. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire des Marais pour la réalisation. Je vous souhaite un beau début d'an. Beaucoup de beauté et de la liberté à foison. Et puis surtout, prenez soin de vos rêves. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio-Ola.